Chapitre 14. On me conduisit pour cette nuit dans la chambre du concierge, et les deux hommes y restèrent avec moi. On me fit 1000 questions, auxquelles je ne répondis guère, mais je me plaignis beaucoup de ma jambe. Je ne pus obtenir à cet égard aucune satisfaction, si ce n'est qu'on me dit « Tenez-vous en repos, mon gars. Allez, si ce n'est que cela, nous vous donnerons un onguent pour vous guérir. Nous y mettrons une bonne emplâtre de fer. » Dans le fait, ils étaient de fort mauvaise humeur contre moi, pour avoir troublé leur sommeil et leur avoir causé tant d'embarras. Dès le matin, ils me tinrent parole. Sans avoir égard à l'enflure excessive de ma jambe, ils me mirent les fers aux deux pieds et m'attachèrent à un anneau sur le plancher de mon cachot avec une chaîne fermée d'un cadenas. Je leur fis de vives remontrances contre un pareil traitement. Je leur dis que la loi n'avait pas encore prononcé sur moi, et que par conséquent, à ses yeux, j'étais réputé innocent. Mais ils me dirent de garder tout ce verbiage pour d'autres, qu'ils savaient bien ce qu'ils faisaient, et qu'ils étaient bons pour en répondre devant toutes les cours de justice d'Angleterre. La douleur que me causaient les fers était insurmontable. J'essayais tous les moyens pour me soulager, et même pour dégager secrètement ma jambe, mais plus elle était enflée, moins la chose devenait possible. Il fallut donc me résoudre à endurer mon mal avec patience, mais plus il allait, plus il augmentait. Après avoir laissé passer 2 jours et 2 nuits dans cet état de souffrance, je suppliai le guichetier de me faire venir le chirurgien habituel de la prison pour qu'il vît ma jambe, ne doutant pas que si on la laissait sans y rien faire, la gangrène ne vînt à s'y mettre. Mais il me regarda d'un air insolent, me disant « Mort de ma vie, je voudrais le voir. La gangrène serait encore une trop belle mort pour un pareil vaurien. » J'avais déjà la masse du sang allumée par la fièvre que la douleur m'avait causée. Ma patience était tout à fait épuisée, et je fus assez sot pour m'irriter au dernier point de ces grossières impertinences. « Monsieur le guichetier, lui dis-je, prenez-y garde. Il y a certaines choses qui sont permises aux gens de votre espèce et d'autres qui ne le sont pas. Vous êtes ici pour veiller à ce que nous ne puissions nous échapper, mais il ne vous appartient pas de nous maltraiter par des injures. Si je n'étais pas enchaîné par terre, vous n'oseriez pas, sur les yeux de votre tête, me tenir un pareil langage, et vous pourriez vivre encore assez pour vous repentir de votre insolence. C'est moi qui vous le dis. » Pendant que je parlais ainsi, cet homme me considérait avec de grands yeux. Il était si peu accoutumé à de pareilles réprimandes qu'il pouvait à peine en croire ses oreilles, et le ton dont je lui parlais était si ferme qu'il parut oublier un moment que je n'avais pas la liberté de me remuer. Mais aussitôt qu'il eut temps de se remettre, il ne daigna pas même se mettre en colère. Il me regarda avec un sourire de mépris, et puis, faisant claquer ses doigts devant moi en signe de moquerie et tournant sur son talon, « Bien dit, mon poulet, » s'écria-t-il, « chantez, chantez tout votre sou. Prenez garde seulement de vous étrangler. » Et il ferma la porte sur moi, en contrefaisant la voix de l'animal auquel il me comparait. Cette réplique me rappela aussitôt à moi-même et me fit voir toute l'impuissance de mon ressentiment. Mais s'il était venu à bout par là de refroidir mon accès de colère, les tortures de mon corps étaient toujours de plus en plus cruelles. Je me déterminai donc à tenter un autre genre d'attaque. Le même guichetier revint au bout de quelques minutes, et comme il m'approchait pour poser à terre quelque nourriture qu'il avait apportée, je lui glissai un shilling dans la main en disant « Mon cher camarade, pour l'amour de Dieu, appelez un chirurgien. Je suis sûr que vous ne voudrez pas me laisser périr faute de secours. » Le drôle mit le shilling dans sa poche, me jeta un regard assez dur et sortit en secouant la tête et sans proférer une syllabe. Le chirurgien parut aussitôt et, trouvant la partie malade fort enflammée, il indiqua les remèdes qu'il fallait appliquer et donna l'ordre express qu'on ne me remit plus de fer à cette jambe pendant tout le temps de la cure. Il se passa un mois entier avant que mon mal fût parfaitement guéri et que ma jambe fût redevenue aussi ferme et aussi flexible que l'autre. Je me trouvais, après cette tentative, dans une situation totalement différente de celle qui avait précédé. J'étais toute la journée enchaîné dans mon cachot, sans autre adoucissement à mon sort, si ce n'est qu'on laissait la porte ouverte quelques heures de l'après-midi, pendant lequel temps les prisonniers venaient me voir et causer avec moi, particulièrement un qui était, il est vrai, bien loin de me tenir lieu de mon pauvre ami Brightwell, mais qui avait néanmoins d'excellentes qualités. Ce n'était autre que ce même particulier envoyé il y avait quelques mois par M. Falkland sur une accusation de meurtre. Son courage était abattu. Le chagrin et la misère l'avaient entièrement défiguré. C'était encore une victime innocente de nos institutions, un homme plein de droiture et de bonté. Il finit, je crois, par être acquitté et il alla traîner par le monde, dans le malheur et l'obscurité, les restes de son existence. Mes travaux mécaniques avaient cessé. Toutes les nuits, on faisait la recherche dans mon cachot et on écartait de moi avec le plus grand soin toute espèce d'outil. La paille qu'on m'avait jusqu'alors accordée m'avait été ôtée sous prétexte qu'elle était propre à cacher des objets défendus, et les seules commodités qu'on daigna me laisser étaient une chaise et une couverture. J'entrevis au bout de peu de temps la perspective de quelque soulagement, mais le mauvais sort qui me poursuivait fit évanouir cette faible espérance. Le concierge vint encore une fois me voir, avec cet air équivoque d'humanité si étranger à sa figure. Il feignit d'être surpris de me voir ainsi manqué de tout. Il me réprimanda fort sévèrement de la tentative que j'avais faite, et il observa qu'il fallait absolument renoncer dans son état à voir de bons procédés pour les gens, si, au bout du compte, ils ne sentaient pas le bien qu'on leur faisait. Que, dans pareil cas, il y avait bien force de laisser aller le cours de la justice, et qu'il serait fort ridicule à moi de me plaindre si j'étais jugé dans les formes et que les choses vinssent à tourner mal pour moi. Qu'il cherchait tous les moyens de me faire voir qu'il était mon ami, pourvu que, de mon côté... Il était au milieu de cette circonlocution de son préambule quand on l'appela pour quelque affaire relative à son office. Je me mis alors à méditer sur ses ouvertures, et quoique je détestasse la source d'où je les supposais provenir, je ne pouvais cependant m'empêcher de songer jusqu'à quel point il me serait possible d'en tirer parti pour une nouvelle évasion. Mais mes spéculations furent vaines de ce côté-là. Le concierge ne reparut pas du reste de la journée, et le lendemain il survint un incident qui mit fin à toutes les espérances que je pouvais fonder sur ses bonnes dispositions. Quand un esprit actif s'est une fois attaché à une idée, il lui est difficile de se décider à l'abandonner. J'avais étudié mes chaînes pendant les douleurs extrêmes que me causait la pression du fer sur la cheville qui avait été foulée. Et quoique l'enflure et la sensibilité de la partie malade eussent rendu impraticables tous les efforts que j'avais tentés pour me soulager, cependant mon attention tendue continuellement sur cet objet m'avait fait acquérir un autre avantage, peut-être plus important en lui-même. Pendant la nuit, mon cachot était dans une obscurité complète, mais quand la porte était ouverte, ce n'était pas tout à fait la même chose. Il est vrai que le passage sur lequel elle donnait était si étroit, et la muraille vis-à-vis était si proche, qu'il ne pénétrait dans ma niche qu'une faible et triste lueur, même en plein midi, et quand la porte était toute grande ouverte. Mais après 2 ou 3 semaines d'exercice, mes yeux s'accommodèrent si bien aux circonstances que j'appris à distinguer jusqu'aux moindres objets. Un jour que j'étais alternativement à méditer et à examiner autour de moi, j'eus le bonheur d'apercevoir un clou enfoncé dans la terre de mon plancher à peu de distance de moi. Je conçus aussitôt le désir de me rendre possesseur de cet instrument, mais, de peur de surprise à cause des gens qui passaient et repassaient continuellement, je me contentai pour le moment d'observer bien exactement la place où il était, afin de pouvoir le retrouver aisément dans l'obscurité. En conséquence, ma porte ne fut pas plutôt fermée que je me saisis de ce nouveau trésor, et l'ayant façonné pour l'usage que j'en voulais faire, je trouvai que je pouvais, par son moyen, ouvrir le cadenas qui me retenait à mon anneau sur le plancher. L'avantage que je venais d'obtenir ne laissait pas que d'être important, indépendamment du secours dont il devait m'être pour mon grand objet. Ma chaîne ne me laissait la liberté de me mouvoir que de 18 pouces environ, à droite et à gauche, et ayant à en supporter cette contrainte pendant plusieurs semaines, la misérable consolation de pouvoir parcourir à mon aise, dans toute son étendue, le trou dans lequel j'étais claquemuré, faisait sauter mon cœur de joie. Cet événement avait précédé de quelques jours la dernière visite du concierge. Depuis cette époque, j'avais eu constamment la coutume de me mettre en liberté chaque nuit et de ne replacer les choses en leur premier état que lorsque je me réveillais le matin, ce qui était le moment où le guichetier ne tardait guère à paraître. La sécurité engendre la négligence. Le matin qui suivit ma conférence avec le geôlier, soit que j'eusse dormi plus tard qu'à l'ordinaire, soit que le guichetier eût fait sa ronde plus matin, je ne fus réveillé que par le bruit qu'il fit en ouvrant le cachot qui touchait au mien. Et avec toute la diligence que je pus y mettre, comme il me fallait tâtonner dans l'obscurité pour retrouver tous mes matériaux, je n'eus jamais le temps de rattacher ma chaîne à l'anneau avant le moment où il entra comme de coutume avec sa lanterne. Il fut extrêmement surpris de me trouver détaché et appela aussitôt le geôlier en chef. On me questionna sur les moyens que j'avais employés, et comme je vis bien que la dissimulation ne servirait qu'à occasionner des recherches plus exactes et une surveillance plus rigoureuse, je leur déclarai la vérité. L'illustre personnage qui avait le gouvernement de la place ne tint pas à cette dernière hardiesse de ma part et entra sérieusement en colère contre moi. L'adresse et les belles paroles ne pouvaient plus servir à rien. Avec des yeux enflammés de rage, il s'écria qu'il était bien convaincu à présent de la sottise qu'il y avait à montrer de la bonne volonté à des vauriens comme moi, qui étaient l'écume de la terre, et que le diable l'étrangla si jamais on l'y rattrapait, que je l'en avais guéri pour jamais, qu'il était étonné que les lois n'eussent pas établi quelque supplice particulier pour les voleurs qui cherchaient à tromper leur geôlier, que la potence était cent fois trop bonne pour moi. Après avoir ainsi exhalé sa bile, il se mit à donner des ordres tels que les instigations réunies de la colère et de la crainte purent lui suggérer. On me changea de logement. Je fus conduit à une chambre qu'on nommait chambre de la force, dont la porte ouvrait dans le cachot du milieu. Elle était plus bas que terre comme tous les cachots et située sous cette chambre commune dont j'ai déjà parlé. Elle était sombre et spacieuse. Il y avait plusieurs années qu'on en avait ouvert la porte. L'air en était infect et les murs couverts de moisissures. J'eus comme auparavant les fers, le cadenas et la chaîne, mais on y ajouta les menottes. Pour ma première provision, le geôlier ne m'envoya qu'un morceau de pain noir et moisi, et un peu d'eau puante et bourbeuse. Je ne sais, à la vérité, si je dois regarder ceci comme un acte gratuit de tyrannie du chef du geôlier. La loi ayant, dans sa sagesse, décrété que dans certains cas, l'eau qui serait fournie aux prisonniers serait prise dans l'égout ou la mare la plus voisine de la geôle. Il fut ordonné de plus qu'un des guichetiers passerait la nuit dans le cachot ou cabinet qui formait une sorte d'antichambre de mon logement. Bien qu'on eût pourvu cette petite pièce de toutes les commodités convenables pour y recevoir un personnage d'une dignité si supérieure au malheureux qu'il était chargé de garder, il ne laissa pas de témoigner beaucoup de mécontentement d'une pareille mission, mais il n'y avait pas d'alternative. La nouvelle situation dans laquelle on venait de me mettre semblait la plus fâcheuse qu'il fût possible d'imaginer, mais je ne me décourageais point. Il y avait déjà quelque temps que j'avais appris à ne plus juger sur les apparences. Le logement était sombre et malsain, mais j'avais acquis le secret de braver ces inconvénients. Ma porte était fermée continuellement et tout commerce avec les autres prisonniers m'était interdit. Mais s'il y a du plaisir à entretenir des relations avec nos semblables, la solitude d'un autre côté ne laisse pas d'avoir ses charmes. Nous pouvons y suivre sans trouble le cours de nos pensées, et j'avais mille moyens de chasser l'ennui par les plus agréables rêveries. Outre cela, pour quelqu'un qui méditait des projets de la nature de ceux que je roulais dans ma tête, la solitude a des avantages particuliers. À peine fus-je laissé à moi-même que je me mis à faire l'expérience d'une idée qui m'était venue pendant le temps qu'on m'attachait les menottes, et simplement avec mes dents, je me délivrais de cette entrave. Les heures auxquelles les geôliers me visitaient étaient fixes, et j'avais soin de me tenir sur mes gardes. Ajoutez à cela que j'avais une fenêtre grillée fort étroite, près du plafond, de 9 pouces environ de hauteur perpendiculaire et d'un pied et demi de large, qui, toute petite qu'elle était, me donnait beaucoup plus de jours que je n'avais été accoutumé d'en avoir pendant plusieurs semaines. Au moyen de cela, je ne me trouvais presque jamais dans une obscurité totale, et j'étais plus à l'abri des surprises que dans ma situation précédente. Toutes ces idées se présentèrent à moi aussitôt après mon entrée dans ma nouvelle demeure. Il y avait très peu de temps qu'on m'avait changé de local lorsque je reçus une visite bien inattendue, celle de Thomas, ce domestique de M. Falkland, dont j'ai déjà eu occasion de parler dans le cours de mon histoire. Un des gens de M. Forrester était par hasard venu à la ville de ma prison, peu de semaines auparavant, dans le temps où j'étais incommodé de la blessure de ma chute, et il avait demandé à me voir. Le rapport qu'il avait fait de ma situation avait été pour Thomas une source de 1000 sensations pénibles. La première visite avait été une affaire de pure curiosité, mais Thomas n'était pas un domestique de la classe ordinaire. Il fut singulièrement frappé de l'état où il me vit. Quoique j'eusse alors l'esprit calme et la santé passablement bonne, cependant je n'avais plus ce teint fleuri qu'il m'avait vu. La vie dure que je menais et l'habitude du courage avaient fait contracter à mes traits une sorte de rudesse bien différente de cette fraîcheur et de cette douceur de physionomie que j'avais dans mes beaux jours. Les regards de Thomas se portaient alternativement sur ma figure, sur mes mains et sur mes pieds. Ensuite, il poussa un profond soupir et après une pause, « Bonté divine » s'écria-t-il d'un ton qui annonçait assez les sentiments de commisération dont son cœur était plein. « Est-ce bien vous ?»« Pourquoi non, Thomas ? Vous saviez bien que j'avais été envoyé en prison, n'est-ce pas ?»« En prison. Il faut que les gens qui sont en prison soient enchaînés et garrottés de cette façon-là. Et où couchez-vous donc les nuits ?» Ici. Ici. Il n'y a pas de lit. Non, Thomas, on ne me donne pas de lit. J'avais autrefois de la paille, mais on me l'a ôté. Mais on vous débarrasse de tous ces fers pendant la nuit. Non, on me laisse pour dormir, précisément comme vous me voyez. Pour dormir. Bon Dieu, je croyais que nous étions dans un pays de chrétiens. Mais on n'aurait pas le cœur de traiter un chien de cette façon-là.
Il ne faut pas dire cela, Thomas. Ce sont des choses que le gouvernement a réglées ici dans sa sagesse.
Pardieu ! J'étais bien pris pour une dupe, toujours ! Ils ne font que nous dire que c'est une si belle chose que d'être anglais. Avec leurs grands mots de liberté, de propriété, ce qui s'ensuit, je vois que tout cela, c'est autant de chansons. Seigneur Dieu ! Que nous sommes de vrais sots ! Voilà ce qui se passe pourtant sous notre nez. Et nous n'en savons seulement rien. Pendant qu'un tas de pédagogues avec un air capable viennent nous jurer que ces choses-là n'arrivent jamais qu'en France et dans d'autres pays semblables. Mais enfin, vous avez été jugé, n'est-ce pas ?
Non.
Et qu'est-ce que cela signifie donc d'être jugé ? Quand on commence d'abord par faire un homme pire que de le pendre ?
Ma foi, tenez, maître Williams, vous avez été bien vicieux, il faut en convenir, et je crois, Dieu me pardonne, que j'aurais eu du plaisir à vous voir aller à la potence. Mais je ne sais comment cela se fait. Avec le temps, le cœur se ramollit, malgré qu'on en ait, et la pitié finit par prendre le dessus. Cela ne devrait pas être, j'en conviens, mais diantre. Quand je parlais de vous voir pendre, je n'entendais pas que vous auriez encore toutes ces choses-là à souffrir par-dessus le marché.
Thomas me quitta aussitôt après cette conversation. L'idée de la liaison qui avait eu lieu si longtemps entre nos familles revenait à sa mémoire, et il avait le cœur plus navré que moi-même de mes souffrances. Je fus surpris de le revoir dans l'après-midi. Il me dit que je ne lui sortais pas de l'esprit et qu'il espérait que je ne serais pas fâché s'il était revenu pour me dire adieu. Je crus voir qu'il avait quelque chose à me dire dont il ne savait comment se débarrasser. Chaque fois qu'il était venu, un des guichetiers l'avait accompagné et n'avait pas quitté la chambre. Cependant, je ne sais quelle affaire, un bruit, je crois, qu'on faisait dans le passage ayant excité la curiosité de notre Argus, il s'avança jusqu'à la porte pour voir ce que c'était, et Thomas, qui épiait le moment, me glissa dans la main un ciseau, une lime et une scie en me disant d'un air affligé « Je sais bien que je fais mal, mais si on me pend aussi, je ne saurais qu'y faire, c'est plus fort que moi. Pour l'amour de Dieu, tirez-vous d'ici, je ne peux pas y tenir seulement que d'y penser. » Je reçus avec une grande joie son présent, que je serrai bien vite dans mon sein. Et aussitôt qu'il fut parti, je cachai le tout dans la paille de ma chaise. Pour lui, dès qu'il avait eu rempli l'objet de sa visite, il avait pris congé de moi. Le lendemain, les geôliers, je ne sais pourquoi, mirent plus de soin que de coutume dans leurs perquisitions, disant, sans pourtant donner aucun motif de leurs soupçons, qu'ils étaient sûrs que j'avais en ma possession quelque instrument qui ne devait pas y être. Mais le lieu que j'avais choisi pour mon dépôt échappa à leur vigilance. Depuis ce jour-là, je laissais passer la plus grande partie de la semaine pour attendre un beau clair de lune.
il me fallait nécessairement travailler pendant la nuit, et il n'était pas moins indispensable que toutes mes opérations fussent consommées dans l'intervalle entre la dernière visite du soir de mes geôliers et la première du lendemain, c'est-à-dire entre 9 heures du soir et 7 du matin. Dans mon cachot, je passais, comme je l'ai déjà dit, de 14 à 16 heures sur 24, sans être dérangé. Mais depuis que je m'étais acquis une réputation par mon industrie, on avait fait pour moi une exception aux règles générales de la prison. Il était 10 heures quand je mis la main à l'œuvre pour ma grande entreprise. La chambre dans laquelle j'étais renfermé était assurée par une double porte. Cette précaution était absolument superflue, puisqu'il y avait un homme qui faisait sentinelle à l'extérieur, mais elle était très heureuse pour mon projet, parce que ces deux portes empêchaient la communication du bruit et me garantissaient assez du danger d'être entendu, en prenant un peu de soin. Je commençai par me délivrer des menottes. Ensuite, je me mis à limer mes fers et en fis bientôt autant à 3 des barreaux de fer qui défendaient ma fenêtre à laquelle je grimpais en partie par le moyen de ma chaise et en partie à l'aide de quelques inégalités du mur. Tout ceci fut l'ouvrage de plus de 2 heures. Quand les barreaux furent limés, il me fut aisé de les forcer un peu hors de la ligne perpendiculaire et de les tirer ensuite l'un après l'autre de dedans le mur où ils n'étaient enfoncés que d'environ 3 pouces, et où ils avaient été plantés tout droit, sans aucune autre précaution pour les assurer. Mais l'ouverture ne se trouva pas assez large pour pouvoir passer mon corps. Il fallut donc que je me misse, partie avec mon ciseau, partie avec un des barreaux, à élargir la croisée en démolissant la maçonnerie, et quand je fus ainsi venu à bout de détacher 4 ou 5 briques, je redescendis et les entassai sur le plancher. Je répétai cette opération 3 ou 4 fois. Alors l'espace se trouva assez grand pour mon dessin, et m'étant glissé à travers l'ouverture, je m'avançai jusque sur une espèce de hangar qui était en dehors. Je me trouvai alors placé dans une cour étroite entre 2 murs, savoir celui de la chambre commune des criminels et le mur de clôture de la prison. Mais je n'avais pas, comme l'autre fois, des instruments pour m'aider à escalader ce mur, qui était d'une hauteur considérable. En conséquence, il n'y avait pour moi d'autre ressource que celle de faire une brèche suffisante dans le bas du mur, qui ne laissait pas d'être fort, étant de pierre à l'extérieur et revêtu de briques en dedans. Les chambres des prisonniers pour dettes formaient angle droit avec le bâtiment dont je venais de m'évader, et comme la nuit était extrêmement éclairée, j'eus un moment la crainte d'être découvert par eux, particulièrement dans le cas où j'aurais fait quelque bruit. Plusieurs de leurs croisées donnant sur cette cour. Dans cet état, je me déterminai à me servir du hangar comme d'un abri pour me cacher. Il était fermé à clé, mais avec un des anneaux rompus de mes fers que j'avais eu la précaution de porter avec moi, je n'eus pas beaucoup de peine à ouvrir la serrure. Dès lors, j'avais un moyen suffisant de me mettre hors d'état d'être vu. Pendant que je travaillais à ma besogne, et le seul inconvénient que je trouvais, c'était d'être obligé de laisser la porte que j'avais forcée un peu ouverte pour avoir de la clarté. Au bout de quelque temps, j'étais déjà venu à bout de démolir une partie assez considérable de la couche de briques du mur, mais quand j'en vins à la pierre, l'entreprise me parut infiniment plus difficile. Le mortier qui liait la maçonnerie s'était presque pétrifié par le laps du temps, et il ne cédait pas plus à mes premiers efforts que n'eût fait un rocher du diamant le plus dur. Il y avait déjà 6 heures que j'étais à travailler sans relâche. À la première tentative que je fis contre ce nouvel obstacle, mon ciseau se brisa dans mes mains, et restant ainsi entre la fatigue que j'avais déjà endurée et la difficulté invincible en apparence qui se trouvait devant moi, je conclus qu'il fallait m'arrêter où j'en étais et abandonner toute idée d'aller plus loin. En même temps, la lune, dont la lumière m'avait été d'un si grand secours, vint à se coucher, et je demeurai dans une obscurité totale. Toutefois, après un répit de 10 minutes, je revins à la charge avec une nouvelle vigueur. Il ne me fallut pas moins de 2 heures pour pouvoir arracher la première pierre. En 1 heure de plus, l'ouverture fut assez grande pour me permettre le passage. Le tas de briques que j'avais laissé dans la chambre de la force était considérable, mais ce n'était rien en comparaison des décombres que j'avais abattus du mur extérieur de la prison. Je suis parfaitement sûr que l'ouvrage que j'avais fait aurait été l'affaire de 2 ou 3 jours pour un ouvrier ordinaire qui aurait été muni de tous les outils convenables. Mais les difficultés, au lieu d'être à leur fin, semblaient ne faire que commencer pour moi. Le jour vint à paraître avant que j'eusse achevé l'ouverture, et dans 10 minutes encore les geôliers allaient vraisemblablement entrer dans ma prison et apercevoir tout le dégât que j'avais fait. La ruelle qui joignait le côté de la prison par où je m'étais échappé, avec la campagne adjacente, était formée principalement par 2 murs de clôture, avec des écuries de côté et d'autre, quelques magasins et un petit nombre de maisons occupées par des gens de la dernière classe du peuple. Je n'avais rien de mieux à faire pour ma sûreté que de traverser la ville le plus tôt possible et de chercher mon salut en pleine campagne. J'avais les bras enflés et meurtris par le travail, de manière à ne pouvoir les endurer, et toutes mes forces étaient épuisées. Je sentais l'impossibilité de soutenir une course un peu rapide, et quand je l'aurais pu, à quoi m'eût servi toute ma vitesse, avec un ennemi qui me serrait de si près? Il me semblait que je me retrouvais à peu près dans la même situation où j'avais été 5 ou 6 semaines auparavant, lorsqu'après avoir achevé tout à fait mon évasion, je m'étais vu obligé de me rendre sans résistance à ceux qui me poursuivaient. Je n'étais pas pourtant actuellement hors d'état de marcher comme alors. Il me restait encore quelques forces à employer, sans pouvoir dire jusqu'où elles me mèneraient. Enfin, je sentais très bien que si je venais à échouer une seconde fois dans mon dessein, la difficulté en augmenterait d'autant pour toutes les nouvelles tentatives que je voudrais faire par la suite. Telles furent les considérations qui se présentèrent à moi sur les risques de mon évasion. Et quand même je serais venu à bout de surmonter tous ces obstacles, j'avais encore à compter parmi ceux qui me restaient à vaincre le dénuement absolu de toute espèce de ressource ne possédant pas un shilling dans le monde. Ainsi s'achève le tome 2e et avant-dernier des aventures de Caleb Williams de William Goodwin.